Je me souviens plus de rien. Je suis désolée.
Bah ouais, mais c'est... j'ai le même problème.
Mais on va parler de ça. Tiens, ça c'est un vrai sujet. Oh my god, I think I like you. Par contre, je voulais juste réécouter cette chanson.
Vas-y.
Avant de commencer. Parce que si je veux la chanter pendant le truc, je veux la chanter correctement. Bienvenue dans Ma Tâche de Série volume 7, le podcast bonus de Il faut qu'on parle, où Dom et moi spoilons joyeusement une poignée de séries. Aujourd'hui, nous arrivons au bout du chemin. Nous allons parler enfin de la fin des premières saisons de Crazy Ex-Girlfriend et Superstore, et malheureusement, de la fin tout court d'Agent Carter. Pour me soutenir dans ce moment chargé d'émotions où je dois sortir de mon déni et accepter que Rachel Bloom ne revient pas avant octobre, mon cher copilote Dom est avec moi. Bienvenue Dom.
Bonjour.
Alors commençons là où ça fait mal, on enlève le sparadrap, Crazy Ex-Girlfriend. Il nous restait 3 épisodes, donc ça s'est fini en avril, nous n'avons donc que 3 mois de retard, je tiens
c'est
à le dire.
C'est pas mal.
Alors que pour le coup Superstore c'était février, tu vois, donc...
Si loin que ça.
C'était genre le 22 février, dernier épisode de Superstore.
Oh la vache.
Donc voilà, donc c'est le podcast des sériephiles retardataires en fait. Je pense que le sous-titre de ce podcast là, ça va être ça.
Les sériephiles qui se souviennent pas des noms des comédiens,
nom de personne, parce que c'est pas que les comédiens, c'est les personnages aussi.
c'est vrai.
Les personnages, les réalisateurs, les auteurs, les noms de personnes.
Les noms
et
des
on
gens.
A juste, tu sais, des 3 iPads, 2 iPhones, un ordinateur à proximité, c'est pas grave. Alors, Crazy Ex-Girlfriend, donc c'est terminé, donc en avril. On va parler dans l'ordre des 3 épisodes parce que je pense que ça vaut le coup, surtout que ils ont tous les 3 des retournements charnières. Donc d'abord nous avons l'épisode 16 dont je n'ai bien sûr pas le titre parce que ce serait trop drôle. Je vais tout de suite le regarder. Dis-moi toi ce que tu as pensé de l'épisode 16 dont je vais retrouver le titre dans 30 secondes.
Que globalement je l'ai plutôt bien aimé. Il fait suite donc à l'épisode du Dream Ghost. Rachel essaye de reprendre un petit peu sa vie en main. J'ai trouvé ça intéressant de la voir vraiment la tête froide, j'arrête les conneries maintenant, je suis sérieuse, non mais on va arrêter ces trucs là, non. Et du coup elle paraît très très sûre d'elle pour le coup, très saine, très loin d'avant sa réalisation en fait, très très loin de ça.
L'épisode s'appelle Josh's sister is getting married.
C'est ça. Avec une suite de quiproquos assez amusants dans le truc. Et ce qui est bien, c'est que les quiproquos ne viennent absolument pas de Rachel, qui est vraiment un être humain très recommandable dans cet épisode.
C'est clair.
sans donner l'impression qu'elle se force particulièrement, ça lui vient assez naturellement. Non, mais je vais faire ça parce que c'est bon, on arrête les conneries. Par contre, celle qui apparaît pour la première fois complètement psychotique, c'est Paula, sa meilleure amie. Ça va pas aller en s'arrangeant, soyons clairs. Mais non, globalement, j'ai trouvé l'épisode plutôt intéressant parce qu'il montrait une facette différente du personnage, mais quand même dans le ton du personnage. C'est pas non plus un revirement à 180.
Non, c'est juste qu'on peut se douter que c'est par cycle et que là, elle est dans un cycle.
C'est ça.
Ok, je suis partie complètement en vrille. C'était pas la bonne solution de partir à New York pour ça. Je reste ici, mais par contre, faut que je change les choses, sinon je vais droit dans le mur. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était enfin un épisode où on a un peu plus de compassion pour Valencia.
Complètement, oui. Elle apparaît comme, même si bon, il y a un revirement qui la refait passer un petit peu du côté obscur. On comprend un peu. Mais non, elle apparaît comme étant un être humain dans cet épisode-là. Et là, pour le coup, comme Paula, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, tombe de plus en plus, à mon sens, dans les caricatures, plus on avance dans ces 3 épisodes, plus Valencia, c'est l'inverse. Mmh. Plus on commence à avoir vraiment de... Enfin, même sur le dernier épisode, je me suis mis à avoir de l'empathie, réellement, pour elle. Ce qui est plus vraiment le cas pour Paula. Donc c'est marrant, ce côté shift des deux personnages qui se fait à peu près en même temps et dans des pentes complètement opposées.
Après, je pense que c'est un truc de... J'ai écouté une super interview de Rachel Bloom qu'on m'avait conseillé. D'ailleurs, je crois que c'est Hush Fosen qui me l'avait conseillé. Je suis pas sûre parce que c'est en anglais. Mais en tout cas, il y a Vulture, un podcast... télé, et ils ont fait une conversation avec Rachel Bloom en décembre, et c'était juste après l'épisode de Noël, et c'était c'est génial parce qu'en fait c'est assez tu sais, il y a un moment un moment de la conversation, donc c'est deux elle est au téléphone et c'est les deux hosts, c'est un mec et une nana du podcast, et là, à un moment, Lana dit oui, j'aime beaucoup aussi, il y a toute une réflexion sur les sphères d'acceptability de qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui est acceptable dans une sphère de vie par rapport à une autre sphère de vie. Et j'étais là, j'adore comment ils intellectualisent à mort la série. Et il y avait tout un truc sur le fait que clairement, la folie, elle est partagée par tous les personnages. Mmh. Et que selon les périodes, on sent la folie de, d'un personnage plutôt qu'un autre. Et donc, quelque part, c'est le propos de la série de montrer que c'est pas, elle, c'est la folle et elle, c'est la, the straight man, comme on dit. Ouais. C'est un des trucs de comédie d'avoir, le fou et celui qui est, et celui qui est straight, donc qui est normal. Et là, le fait que ça change, que c'est jamais les mêmes personnages, je trouve, en fait, c'est assez touchant et je pense que s'ils arrivent à continuer ça et à montrer que chaque personnage ne sombre pas dans la folie définitivement, mais se reprend dans la, la suite, ça va crédibiliser encore plus l'univers.
C'est ça qui me dérange avec Paula. Je trouve qu'il pousse le curseur tellement loin. J'ai peur qu'ils puissent plus l'arner. Ils vont sûrement le faire, mais à un moment tu te dis ouais là ça y est, elle a dépassé les limites quoi. Elle se présente elle-même d'ailleurs en tant que manipulatrice, et, mais au dernier degré quoi. Genre ça fait vraiment peur quoi. Donc bon.
Après moi, pour moi, je me demande si ça fait pas. Enfin, je suis d'accord que moi je me suis posé cette question genre ouh là là ils vont très très loin, mais pour moi il y a pas le côté où. Enfin, je pense que ça fait plus peur dans ce qu'on imagine de ce que la suite pourrait être ou ne pas être que ce qu'il montre là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tant que c'est dérangeant dans ce que là, ce qu'on voit. C'est plus qu'on se dit, mais alors si ça fait ça, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite?
Quand même, elle tombe dans les limites du harcèlement.
Oui, mais après
très, très
ça,
loin,
je pense que je pense qu'il y a des gens qui font des choses comme ça. Et puis surtout, moi, du coup, je trouve que ça révèle une autre facette de son personnage, qui est que c'est quelqu'un de très intelligent et de très compétent.
Bien sûr.
Qui ne peut pas du tout être ouvertement comme elle est, de montrer sa compétence, son intelligence et tout ça. Donc du coup, elle use de ses talents de façon cachée dans la manipulation. Mmh. Et du coup, pour moi, ça, il y a un truc. Là, il y a un truc. Il soulève un truc. Ça va tellement loin qu'il soulève un truc sur à quel point sa normalisation est en fait l'a rendue comme ça.
Ouais.
Et que du coup, est-ce que si elle sort du, si elle accepte, comme apprend à s'accepter et assumer qui elle est et ce qu'elle pense, est-ce qu'elle va pas dans la saison 2 justement pouvoir dépasser des choses? Moi, c'est ça que ça m'a, du coup, ça m'a, tu vois, j'ai pas tout d'un coup eu l'impression, ah, mais en fait, elle a jamais été folle et là, tout d'un coup, elle est juste, tout d'un coup, elle devient folle, c'est pour
non,
moi.
Non,
c'est...
non, non, bien sûr.
Ah, tout d'un coup, on comprend.
Mais avant, t'étais plus sur le mode, bah oui, en effet, son couple, ça va pas bien, donc elle projette complètement sur Rachel une idée du couple, une idée de. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'appelle Rachel. Le nom du personnage, c'est Rebecca, mais bon, c'est pas grave.
Ça arrive à tout le monde.
Ça, surtout à nous.
En même temps, ça a gêné personne. Hein.
Tout le monde comprend. Léa est déjà là. Oui, oui, elle vient de se dévoiler.
Elle attend même pas d'avoir un micro. Pourtant, je lui ai gardé le micro qui fait sonner tout le monde comme s'il parlait des toilettes ou d'une cave. Donc, on change, on fait tourner, hein. La dernière fois, c'était moi, donc. Mais non, non, elle partait pas non plus de. Ouais, non, elle a la tête sur les épaules, elle est très, elle va très bien. On sentait vraiment qu'elle projetait justement une idée du couple sur Rebecca et Josh que elle n'avait plus dans le sien. Et du coup, tu perds un petit peu ce cheminement de. T'avais une scène vachement touchante dans un épisode que j'aimais pas trop, où elle se retrouvait à comploter avec son mec pour l'histoire de la vie brisée et tout ça. Donc. Je trouvais ça assez touchant de les voir un petit peu reconnectés, puis on a complètement perdu ça et elle est devenue vraiment la. Enfin ouais, il y a des scènes où elle passe vraiment pour une folle manipulatrice, psychopathe. Elle est présentée comme ça et ça, j'avoue que ça me gêne un petit peu de perdre cette humanité dans ce personnage en fait.
Bon. C'est vrai que moi là pour le coup, mais c'est comme plein de choses de cette fin de saison. J'attends de voir comment ils rebondissent en saison 2.
Ouais, on en parlera après du dernier épisode parce que j'ai quand même beaucoup de soucis avec.
Alors, mais donc, parce que l'épisode, donc, alors, l'autre highlight de l'épisode 16, c'est la chanson que je n'aime pas spécifiquement en tant que chanson, mais j'adore pour le message qui est Heavy Boobs.
Oui.
Où elle explique ce que c'est que d'avoir des gros seins. Et comment ça.
J'adore la liste des choses qu'elle arrive à mettre sous ses seins.
Oui, c'est ça. Et en plus, qui est un truc qu'elle fait à Valencia pour lui expliquer qu'elle ne peut pas, parce que Valencia lui dit qu'elle, elle a un complexe par rapport à sa poitrine. Elle lui dit, mais t'imagines même pas comment moi, si je mettais cette robe-là avec ma poitrine, ce serait juste horrible parce que et donc il y a une espèce de partage à ce moment-là. Le truc que j'adore, c'est le fait que donc il y a un quiproquo qui fait qu'elle passe pour une tarée alors que c'est Paula qui l'a fait pour avoir diffusé une photo, la photo où Valencia essaye la robe de mariée de la sœur de Josh en cachette et elle demande sur les conseils de Rebecca. Et Rebecca prend la photo et elle dit c'est juste pour moi, je la montrerai à personne. Et Paula prend accès et l'envoie à toute la famille.
Elle la met sur Facebook.
Ah oui, sur Instagram.
Sur Instagram, ouais. Donc, au vu de tout le monde, quoi.
Et en gros, où la réaction de Rebecca, c'est pas d'essayer de se défendre.
Non, du tout. Ni de mentir, ni d'inventer une connerie comme elle aurait pu le faire dans d'autres épisodes.
En fait, elle ment. Elle dit oui, elle l'a fait.
Oui, mais elle essaye pas de s'en échapper, quoi.
Non, en disant, ça règle le problème. Voilà. Je veux dire que c'est moi. Je veux dire
que
je suis folle.
Ça règle tous les problèmes, d'ailleurs.
Comme ça, du coup, ça va automatiquement rompre les coupons avec toute cette famille. Voilà. Et du coup, et je trouve ça génial que du coup, Josh lui réagit bêtement et va la voir. Ouais. Et va la voir et elle lui dit, je trouve ça génial qu'elle lui dise, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. T'as un problème avec ta meuf? Tu vas voir ta meuf. Ouais. Moi, ok, je suis folle. On décide que je suis folle. Dans ce cas-là, tu te casses. Mmh. Et que bien sûr, ce qui m'a rendue aussi extrêmement heureuse, elle va voir Greg. Ça se termine quand même sur ce moment.
Et là, tu sais que Rachel Bloom a vu Friends parce que c'est l'inversion totale de du premier baiser de Ross et Rachel avec les mêmes fonctions en fait. C'est quand même très très fort.
C'est vrai, j'y avais pas pensé du tout, mais c'est vrai que c'est exactement la même chose que Ross et Rachel. Et c'est vrai que, et l'autre, bien sûr, il y avait l'autre chanson, la chanson de Greg, Whoopsie freaking do! Genre, ah, mais si je voulais, je ferais plein de choses, mais c'est juste que je veux pas, parce que je m'en fous. Qu'il y a un truc sur l'auto-sabotage et le underachievement.
Mais alors, c'est quoi finalement le Harvard du Sud?
Oui, c'est ça. C'est ça qui est génial, ça, tout le
truc. Tout le monde, enfin, Greg essaie de vendre l'université.
C'est Emory, je crois. C'est Emory, ouais, où il a failli aller. Qui est effectivement, mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est la blague est justifiée. C'est-à-dire que les gens disent effectivement que le Harvard du Sud, c'est toutes ces différentes universités.
Ça, pour valoriser à mort, leur cursus. C'est dans cet épisode avec le mec qui travaille dans un supermarché.
Je crois que...
Que Greg essaye d'être son Cyrano en lui donnant plein de conseils. Cette fille t'ignore, mais insiste lourdement. C'est exactement comme ça qu'il faut faire.
Ouais, clean up on aisle 4, oui, c'est dans l'épisode 16. Donc voilà, et ça se termine par ce moment génial où elle va le voir et elle lui dit c'est bon, et lui fait ok, mais je te préviens, c'est pas juste un coup d'un soir, c'est pas juste rapide, parce que machin, si on le fait, on le fait, quoi. Mmh. D'ailleurs, c'est pas très grave si on le fait, en fait.
Ouais, on le fait dire... pendant 3 jours.
Voilà, c'est ça. Mais si ça veut juste dire ça, ou ça veut dire que c'est une vraie relation, c'est pas très clair à ce moment-là de la conversation, mais en tout cas.
Il veut que ça compte. Voilà. Il lui fait comprendre qu'il faut que ça compte, quoi.
Voilà. Ce qui est hyper ironique vis-à-vis de l'épisode suivant. Ouais. Qui est quand même un épisode, enfin, moi, je pense que c'est le, alors attends, je regarde le titre. C'est Why is Josh in a bad mood? Qui est génial à plein niveau. Pour moi, je crois que c'est mon épisode préféré de la saison. Je crois que c'est celui qui est le plus fort parce que il est drôle, il y a plein de moments géniaux, il y a aussi le moment du concours de tarte.
Ouais.
Avec Daryl en juge de concours de tarte, qui est un grand moment. Il y a cette histoire d'amour naissante.
En juge corrompu.
Oui, ça, cette histoire d'amour naissante. Qui est traité sous l'angle l'affectation hormonale du sexe sur les hommes et les femmes, à la fois ils prennent en compte la situation spécifique de ces personnages, les clichés hommes-femmes, ce qui se passe réellement physiologiquement chez les hommes et les femmes, au point de parler, comment on appelle ça? On appelle ça une infection urinaire, tout simplement. Le fameux UTI, et donc c'est quand même, ça devient aussi un message, un PSA médical, pour les femmes, mais surtout pour les hommes qui clairement, alors c'est incroyable le nombre de gens, parce que du coup, moi je l'avais vu avant Ceremonia. Et donc, j'ai pas vu la fin, j'ai pas pu débriefer du dernier épisode avec mes amis crazy ex-girlfriendophiles, à sa manière. Par contre, celui-là, on en a beaucoup parlé, parce qu'on l'avait tous vu, et surtout que moi et Alix, on passait notre temps à se dire, I gave you a UTI. Et c'est impressionnant le nombre de gens avec qui j'en ai parlé, de mecs, qui m'ont dit, ah oui, mais c'est vrai que moi, je sais limite pas ce que c'est, je sais pas du tout que c'est fréquent, je sais pas que c'est un problème. Et clairement, c'est, enfin, un des trucs de l'épisode, parce que, en plus, tout l'épisode est monté là-dessus, c'est-à-dire que, en gros, elle a un UTI qui finit où elle finit à l'hôpital.
Ouais.
Donc c'est, mais clairement c'est, et en même temps elle se moque du fait que c'est une évidence pour une nana mais qu'elle se soigne pas, et qu'elle continue à coucher avec lui alors qu'en fait elle devrait pas, et qu'elle devrait prendre ses antibiotiques qu'elle fait pas, et que lui surtout, il sait pas ce que c'est, puis il s'en inquiète pas vraiment comme il devrait s'en inquiéter, enfin une espèce de double leçon de gynécologie essentielle, en plus de tout le reste, et en plus, il y a le côté romantique que je trouve vraiment bien traité sur la confusion des sentiments, qu'ils ont, qui traversent tous les deux. Et donc du coup, je trouve que cet épisode est juste, enfin, au-dessus de tout le reste, quoi. Mmh.
Non, non, c'est un très bel épisode, puis vraiment très drôle pour le coup. Et oui, t'as vraiment l'impression de voir un vrai couple en fait interagir, un couple naissant certes, mais les discussions qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont, ça fait très très vrai en fait. Très très vrai.
Ça fait presque peur.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qui fait aussi que l'épisode suivant pêche, à mon sens.
Oui, c'est clair que, en fait, c'est ça. C'est le dernier épisode souffle, mais j'avoue surtout que cette idée de voir qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui,
ouais.
Que lui, il a passé toute la saison à être accro à elle pour des raisons d'autodestruction personnelle, mais aussi des vraies raisons, mais aussi des trucs de jalousie où il n'y assumait pas. Enfin, il a tout ce parcours avec elle, et que le moment où ça y est, ils couchent ensemble, et clairement c'est un peu plus, et clairement elle est en train de tomber amoureuse de lui, lui, il se comporte comme un pan fanfaronnant où il dit « Ah non, non, mais pas de stress, on est juste là, on couche ensemble et tout va bien. » Ce qui est le truc ultra contre-productif.
Contre-productif, mais c'est le seul moyen qu'il a trouvé de se protéger, en fait. C'est
ouais, ça, et en même temps, ça paraît tellement logique.
Ouais.
Et tu vois, enfin, je trouve que il souligne vachement bien aussi les problèmes de communication, quoi, l'incapacité à se parler, quoi, la difficulté de se parler, que tous les soucis qu'ils avaient avant, ils les ont encore plus maintenant, et toute sa problématique à elle, où à la fois, tout d'un coup, en l'espace d'un instant, en ayant couché avec lui, elle est passée de la fille qui était pas sûre de trop vouloir à tout d'un coup être en demande. Et avec la conversation avec Heather qui lui explique, comment ça s'appelle? C'est quoi cette hormone? Enfin, les endorphines et tous les trucs, mais non, l'hormone spécifique. Oui, c'est ça. Faudrait que je retrouve le nom, parce que c'est ça qui est génial. Oxytocin. Oxytocin, un truc comme ça. Qui est le truc que tu sécrètes après le sexe chez Nana et qui te donne envie de t'accrocher, même si t'avais aucune raison de le vouloir. Et aussi le truc qu'elle lui dit, que Heather lui dit, mais ça en plus c'est rigolo, parce que ça c'est un signal où Heather lui dit, désolé, j'espère que c'est pas un problème que je sois avec Greg. Et Heather lui dit, bah non, t'as le droit, parce que c'est une vraie histoire. Vous êtes vraiment amoureux. Et là, tout d'un coup, ah bon? C'est ça la règle? Et j'ai trouvé ça en même temps hyper touchant, la fin, que Greg arrive en courant à l'hôpital.
Ouais. Oui, sans qu'il y ait de réflexion, sans qu'il y ait de... Non, bah oui, elle est à l'hôpital, bien sûr, j'y vais.
Et puis qu'elle aussi, elle lui dise qu'elle est à l'hôpital.
Enfin, et puis que ça lui fasse réaliser à quel point son plan était complètement débile et qu'il aurait jamais dû écouter...
Son pote à la con qui lui dit, ah bah non, maintenant qu'elle veut coucher avec toi, maintenant faut que tu couches avec quelqu'un d'autre pour montrer que t'es libre.
Et c'est bien parce que c'est typiquement le genre de plot que t'as dans les, dans les comédies en règle générale, qui sont pénibles, quoi. C'est, non, il faut que tu gardes le dessus, faut pas que, enfin, et clairement à la fin, c'est, ouais, en fait, on s'en fout, quoi.
Elle est à l'hôpital, donc c'est ça qui est le plus important. Ouais,
puis j'ai pas envie de sortir avec cette nana-là, bien sûr que non, quoi. C'est... Et non, un vraiment excellent épisode. Et ouais.
Spéciale dédicace à Oh My God, I Think I Like You. Donc oui, ça parle crûment de sexe. Il y a aussi tout un truc sur les qu'on a déjà vu d'ailleurs dans le personnage de Rebecca sur la dynamique psychosexuelle de Rebecca qui en gros utilise le sexe comme quelque chose de très immédiat parce que justement elle ne sait pas comment s'attacher sentimentalement de façon saine et normale, et donc du coup d'ailleurs j'ai appris que dans le pilote original de Showtime la scène où il s'embrasse avec Greg dans le premier épisode c'était en fait elle le branlait.
D'accord.
En gros, c'est the hand job scene. C'est tellement moche en français ce mot. Je suis désolée, hein, mais je trouve que c'est tellement pas joli. Mais on est d'accord, c'est comme ça qu'on dit en français. Il n'y a pas un autre terme que j'ai oublié.
Elle le masturbait.
Je trouve ça pire qu'elle le branlait. C'est bizarre. Hein. C'est plus technique. C'est moins. Enfin, tu vois, c'est moins grossier entre guillemets. Mais je trouve ça pire. Je trouve ça.
That's your problem.
Yeah, that's my problem. J'en parle à mon psy. Dame ne se prononce pas. Bon, toujours est-il que it was a hand job interrogation. Où en gros, pour lui demander de poser des questions, elle commençait à.
Ok.
Et donc, ça, c'est une des scènes qu'ils ont changé pour passer sur la CW.
On se demande pourquoi.
Donc voilà, je trouve ça intéressant. Et donc, il y a tout un truc sur le fait que oui, du coup, la sexualité, c'est plus simple, c'est plus immédiat. que de devoir gérer des trucs. Le fait qu'elle veut pas de, enfin, qu'elle a ce côté indépendant où elle s'attend pas à ce qu'il y ait des grandes histoires d'amour et en même temps c'est ce qu'elle espère. Enfin, tu, elle est, je trouve que cette chanson le montre très bien et tout le côté où elle se reproche à elle-même d'avoir des fantasmes romantiques débiles avec on va se marier au bord d'un lac et il y aura des canards. Oh mon Dieu, quelle horreur. non. Et mais surtout le truc le plus, enfin je te disais tout à l'heure, le truc que je trouve le plus touchant dans, c'est il y a un truc musical hyper intelligent que je vais essayer de reproduire mais je suis pas sûre d'y arriver, mais c'est qu'elle fait Oh my god, I think I like you. Oh my god, I think. Ah non, c'est ça, c'est le deuxième. C'est Oh my god, I think I like you. Oh my god, I think I like you. Et le like, la façon de, dont ça monte, la variation musicale entre les deux phrases, crée vraiment l'émotion de l'empathie et du doute qui se crée en elle et de tout ce que ça peut vouloir dire. Mm-hmm. Ce Oh my god et Oh my god! Il y a vraiment cette espèce de deuxième étape, et ça, c'est très très touchant et très joli musicalement. Et je trouve que c'est vraiment, ça, c'est là aussi que tu, je trouve que il y a aussi un saut de qualité des chansons qu'il n'y a pas eu depuis longtemps au niveau musical. Moi, j'aime beaucoup ouais. I'm the Witch, j'aime beaucoup Dream Ghost et tout ça. D'ailleurs, dans le post, je me suis vraiment amusée dans le post du dernier matage de série à mettre en lien. Je vous conseille d'aller regarder la chanson des Misérables et la chanson qui ressemble à la chanson des Misérables, une chanson d'Hamilton et la chanson qui ressemble, la chanson de Dream Girls à côté de Dream Ghost pour que les gens puissent comparer. Ouais. Et donc on avait l'impression que c'était plus de la parodie musicale, ouais. Alors que là on a l'impression, ça c'est une vraie chanson en fait. Mmh. Ouais, ils sont touchants tous les deux, ils sont attachants, ils sont.
C'est fou, hein. Plus on en parle, plus en fait je peux pas m'empêcher de penser à l'épisode suivant et à l'épisode suivant qui sur le coup m'avait semblé. Très plot twist sans arrêt quoi. C'est on cherche à vous surprendre avec en même temps un épisode qui est particulièrement creux en termes de contenu, je trouve. Et en fait, plus ça va, plus je me dis qu'il est vraiment pas bon en fait cet épisode.
On va revenir, mais c'est voilà. Donc parlons-en. Paula, super. Paula needs to get over Josh. Ouais. Dernier épisode de la saison. Alors commençons par le truc qui fait le plus mal. Elle termine la saison, elle couche avec Josh. No, why? Voilà, c'est ma réaction.
Alors, je vais employer un autre pourquoi, mais pourquoi?
Alors, donc, malgré mon énervement, mais en plus, l'énervement, c'est que tu vois le dernier épisode arriver et tu dis, putain, elle s'est déjà mise avec Greg.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui peut se passer à la fin de la saison? Ils peuvent faire un truc qui est qu'ils essayent d'être vraiment ensemble à la fin de l'épisode. Mmh. Mais plus probablement, c'est autre chose. Et quelque part, alors, entre-temps, je me suis habituée, j'ai pris mon parti de cette fin en me disant, quelque part, par rapport au début et par rapport à là où ils veulent aller plus tard, vu qu'il y a une seconde saison, l'idée que, à la fin de la saison 1, le fantasme soit réalisé, mais tout de suite dégonflé, le fait qu'elle finisse par dire, qu'elle couche avec Joss et qu'elle finisse par lui dire, oh! En fait, je peux te le dire maintenant, c'est pour toi que je suis venue à West Covina et qu'ils les prennent un air horrifié en disant « Oh my God, c'est une crazy ex-girlfriend ». Quelque part, je sens la logique. En plus, dans l'interview que j'ai écoutée de Vulture, elle disait « Non, non, c'est exactement où on va, on a un plan pour la saison ». Comme je l'ai déjà dit, wow. Sur cette antenne, et d'autres endroits, c'est jamais bien d'avoir un plan pour la saison. Parce ouais, que quand tu as un plan sur la saison, tu finis là où tu voulais commencer, mais du coup, ça paraît... Trahir.
Bah, ça trahit en plus les dynamiques qui se sont créées pendant la saison du fait pas seulement de l'écriture mais aussi du de l'alchimie entre les comédiens eux-mêmes. Il y en a énormément entre Greg et Rebecca et je reste vraiment sur mes positions. Il y en a absolument aucune entre Rebecca et Josh. Et ça semble tellement plaqué que oui, j'imagine très bien que dans le plan de la saison, tu te dis il va se passer ça à la fin parce que ça permet de rouvrir ensuite sur quelque chose et mais en fait, ça fonctionne pas du tout. Moi, j'y crois pas une seconde qu'elle couche avec lui.
Alors moi, j'y crois. Alors une fois de plus. Ma première réaction, c'est mais non, mais Greg, mais non, parce que j'aime à penser que leur histoire est possible.
Ça va pas être simple. Hein.
Ouais, en même temps. En même temps,
c'est une série, donc heureusement que ça va pas être simple. Mais bon.
Non, et puis quelque part, quelque part, ils ont fait le truc qui était intelligent, c'est-à-dire que il réagit mal, il sait pas réagir, et vu tout ce qu'on sait de Greg, on sait qu'il fait ça. On sait qu'il va détruire le truc, qu'il sait pas le mener. Que c'est pas parce qu'il est venu à l'hôpital à la fin de l'épisode précédent qu'il sait gérer ses sentiments et qu'il sait les dire.
Oui, mais elle le sait, ça.
Oui, mais elle, oui, sauf qu'elle le sait, sauf que elle se sent rejetée. Parce que tu vois, le savoir, tu peux, enfin, ça demande une confiance en soi hallucinante pour passer outre ce type de comportement. Parce qu'en plus, elle est elle-même dans un espèce de déni de réalité où elle essaye de recréer du coup avec lui un autre type de fantasme. Et donc quelque part que ça marche pas et que, enfin tu vois, quelque part, moi ça paraît logique. Et puis de faire, en plus quelque part, de faire la connerie de coucher avec quelqu'un d'autre et de s'enfuir dans un autre truc, c'est pas comme si c'était pas la première fois qu'elle, enfin que c'était la première
fois. Non, bien sûr. Mais justement,
donc, tout ça fonctionne presque en partant du principe qu'ils sont cons et qu'ils font des conneries.
Ouais, c'est ça. Surtout en partant du principe qu'il faut une saison 2 et il faut des enjeux pour la saison 2, quoi.
Mais ça, c'est surtout ça qui me dérange un tout petit peu, c'est le côté.
Oui, forcément, ils vont faire ça parce que comme ça, au moins, il y a quelque chose à raconter dans la saison 2. Josh va peut-être prendre peur et se barrer. Rebecca va vouloir peut-être, rétro-pédaler avec Greg et va y avoir un mensonge pendant 2-3 épisodes et puis Greg va finir par le savoir et ça va être l'explosion. Enfin, tu vois, la saison 2 arrivée grosse comme une maison. J'espère que je me trompe.
Tout ça sera dans le premier épisode de la saison 2 pour qu'après tout de suite on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire?
C'est à souhaiter, hein, mais j'aurais presque préféré qu'on. Enfin, c'est cette espèce d'obsession de la fin de saison en cliffhanger avec trois situations qui se déroulent en même temps, qui laissent un petit peu en panique, tout ça. Qu'est-ce qui va se passer?
Je déteste aussi.
C'est tellement placardé.
Mais
c'est
le problème,
tellement.
C'est que ça, je pense que c'est la CW qui les force de toute façon. Enfin, tu vois, je pense que pour le coup, si. Qu'ils aient eu envie de le faire ou pas, on a terminé sur une saison comme ça, c'est sûr. Une saison comme ça, et c'est exactement ce qui m'inquiétait. C'est pour ça que d'ailleurs j'étais déçue quand je l'ai regardée. Après, je suis sûre qu'il y a des gens qui voulaient que Rebecca et Joss soient ensemble. Après, ce qui est clair, c'est qu'elle avait besoin d'être
présente-les-moi
dans d'autres pays. Ce qui est clair, c'est qu'elle avait besoin. En réalité, elle a besoin de passer par là.
Sûrement, oui.
Et par contre, je ne peux pas imaginer que Greg puisse facilement passer outre ça, vu que c'est son...
Non, clairement pas.
Voilà.
Mais parce que aussi, tout dans leurs échanges laisse à penser que Greg, c'est le truc qui, de toute façon, le gênait tout le temps. C'est-à-dire le fait qu'elle soit fascinée et qu'elle ait envie de se remettre avec Josh alors que lui était là, présent et... ça se passait bien entre les deux, même leur premier rendez-vous il s'est plutôt bien passé, au début il y avait des bons échanges entre les deux. Le fait qu'elle fasse ça, c'est la pire chose qu'elle pouvait lui faire.
Mais sachant qu'en plus, le truc de base, c'est que de toute façon après, Josh, il se complaît dans son rôle de victime, donc de toute façon si c'était pas Josh, ce serait, enfin Greg, oui c'est ça, si c'était pas Josh, ce serait autre chose, tu vois, il trouverait une autre raison de penser, mais c'est, ah bah ça confirme bien qu'elle voulait
bien
pas
sûr,
vraiment être
évidemment.
Avec moi, et, alors qu'en réalité ça confirme que dalle, quoi, mais et en plus, j'ai envie de dire, vu comme on éduque les hommes hétérosexuels blancs, mais pas que les blancs d'ailleurs, les hommes hétérosexuels en général, remarque, les homosexuels doivent être éduqués pareil, mais ils sont pas pareils. Ce côté de c'est... Enfin, vu que tu as fait ce truc-là, à ce moment-là, ça veut dire que à tout jamais... Étonnamment, je trouve que dans la vie, alors, je parle pas dans la fiction, mais dans la vie, moi j'ai l'impression, c'est peut-être juste les nanas qui sont autour de moi, mais j'ai l'impression que... on a plus la capacité, alors je dis pas quand on trompe ça, mais en général de faire la part des choses entre, ben tu vois, le passé. Ouais, remarque, j'entends tout le temps parler de nanas qui focalisent, qui sont obsédées par les ex de leur mec, mais moi c'est dans ma vie, j'ai plus connu des nanas où leur mec obsédait sur leurs ex que les nanas elles-mêmes obsédées sur les ex.
Non, mais là c'est vraiment un cas particulier quand même, parce que c'est son meilleur ami et clairement elle a toujours affiché sa préférence virtuelle pour Josh comme étant une sorte de fantasme ultime pas vraiment réel. Donc du coup non, c'est à mon avis c'est vraiment le matraquage
de l'un sur l'autre, que tu vois, que cette base déjà de penser ah bah si tu l'aimes lui, tu peux m'aimer moi, et si c'est lui que tu voulais à ce moment-là.
Ah, c'est aussi parce que, à mon avis, pour Greg, Josh, c'est l'inverse de lui en fait.
Oui, il y a aussi
et
ça.
Et du coup, il se dit mais comment elle
ensemble.
Peut m'apprécier moi
quoi. Ensemble.
Ouais, bien sûr, il le connaît par cœur.
Donc il a toujours vécu dans son ombre surtout aussi. À mon avis,
aussi,
au lycée,
ouais.
Au machin.
Bah de toute façon, Josh c'était le mec populaire, pendant que Greg c'était le gars qui fait des commentaires sarcastiques et qui essaie de faire rire tout le monde.
C'est pour ça qu'on l'aime tellement. C'est ça qui est génial, c'est que tu sens le mec qui a une confiance en soi dans les chaussettes, sans parler du fait qu'il s'est quand même tapé la nana la plus hot de la saison, c'est-à-dire Heather, qui est non seulement la plus hot, mais la plus cool et la plus intelligente. Et tu sens le mec, il a même de son dîner, alors qu'en fait, il est juste à tomber par terre, enfin, en tout cas, bon, plastiquement, ouais. Peut-être un peu moins, mais quand même. Mais moi, je disais, j'avais cette conversation avec je sais plus qui, je disais, un des trucs, je l'ai peut-être déjà dit dans le podcast, un des atouts aussi, c'est le fait qu'il a il chante si bien. Et du coup, il a une voix de jeune premier. Tu vois ouais. Ce que je veux dire? Il a pas spécialement de physique, mais vu qu'il a la voix du prince charmant, littéralement, vu que c'est le prince charmant de Frozen.
Sachez une chose quand même, c'est que si vous prenez le métro à Paris, vous entendez les annonces en anglais, j'ai l'impression d'entendre sa voix systématiquement. Je me dis, mais c'est lui qui l'a enregistré ou...
C'est entièrement possible.
C'est carrément possible.
Ils ont pris les mots de Hans dans Frozen et les ont mis à bout à bout. Mais ouais, du coup, ouais, moi, ça me pose plein de soucis. Donc, évidemment, et bien sûr, il y a la question Paula qui vire totalement tarée.
Ah bah c'est Katie Bates dans
dans Misery.
Dans Misery quoi. Ah mais clairement elle est à deux. Je veux dire l'étape de dessus, ça lui pète les jambes pour. Et ouais c'est dommage ce revirement. Enfin évidemment que elle prouvait déjà par le passé qu'elle n'était pas non plus la personne la plus équilibrée de la série, si tant est qu'il y en ait une. Et c'est ce qui les rend attachants et crédibles, hein, c'est que justement il y a personne qui est là. Enfin non, écoute, franchement, tu devrais plutôt faire comme ça parce que même la psy, je la trouve un petit peu limite par moment. Mais à ce point-là, c'est vraiment c'est du cartoon quoi.
Bah ouais, mais en même temps, il y a une réaction à la fin du dernier épisode où finalement elle va à la soirée. Et elle
oui, mais quelque part c'est Rebecca qui la sauve. C'est-à-dire que elle va vers elle, elle commence mutuellement des sortes d'excuses.
Ah oui, mais c'est ça aussi que j'avais aimé. Je me rappelle maintenant, c'est que Rebecca dit à Paula, tu es complètement folle, ma chérie, mais je t'aime.
Ouais.
Donc t'as pas à te soucier, c'est pas je ne te parlerai plus jamais, c'est juste faut juste que tu te calmes quoi, mais ça ne change rien.
Bah après moi j'avais du mal déjà avec le côté non surtout pas Greg, non surtout pas Greg, non surtout pas Greg, et je me disais
c'est vrai que c'est
beaucoup quand même là, c'est à un moment je me demandais même mais il y a un truc en fait, elle sait quelque chose sur Greg qui fait que ça le rend mais complètement mais c'est impossible. Non, c'est bon, elle est obsédée par Josh et Rebecca, c'est elle chie pas mort.
J'ai une théorie.
Vas-y.
Parce que tu en dis le truc, tu disais tout à l'heure, elle a perdu son truc avec son mari, elle ouais. Voudrait le retrouver et tout. Et en fait, en voyant le pilote à Cerimania, j'avais un truc que j'avais pas capté dans le premier épisode, où quand elle découvre qu'elle est amoureuse de Josh et qu'elle l'aime et tout ça, Rebecca, et elle lui dit un truc du genre, enfin, en gros, tu as le courage de faire le choix de l'amour plutôt que le choix de la facilité, machin.
Donc
et tout.
Donc elle serait mise avec son Greg.
C'est ce que je me dis. Bah c'est
là,
que
c'est
je me dis
con,
que
hein.
Si ça se trouve, c'est son Greg, son mari.
Ouais.
Et donc du coup, elle projette et il y avait quelqu'un d'autre dans son passé, quelqu'un qu'elle a aimé comme Josh, et que du coup, il y a ce truc de elle focalise sur cette ouais, répétition alors, de son propre schéma.
C'est une très bonne théorie. Si c'est le cas, j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus pour atténuer un petit peu le. Oh punaise.
Bon, en même temps, ils ont tendance à faire plus le oh punaise d'abord et ensuite le.
Ouais. Puis là, il y avait pas forcément le temps. Ils ont aussi une saison plutôt raccourcie, donc est-ce qu'il y avait aussi des pistes où ils se sont dit non, mais on développera ça l'année prochaine. Mais on a besoin de ça pour avancer, donc on le fait quand même. Et tant pis, on justifiera, on expliquera plus tard. Donc, je le souhaite sincèrement parce que vraiment, si elle tombe dans le cartoon pur, le personnage n'aura plus aucun intérêt. Mm-hmm. Et c'est con parce que son amitié avec Rebecca, c'est un des trucs très touchants de la série. Bon, ça et
White Josh.
White Josh, putain, c'est le truc à sauver de l'épisode du mariage quand même.
Mais je sais plus ce qui se passe avec White Josh. Mais
il se passe qu'ils sont en tuxedo et ils se regardent et ils se disent, enfin, ah, je me souviens plus du nom du boss.
Daryl.
Daryl, qui dit, tu crois qu'on en a pas trop fait avec, White Josh qui dit, tu crois qu'on en a pas trop fait avec les costumes? Non, c'est un mariage. On a l'air beau gosse, on assume. Et puis tu les vois juste contents d'être bien en costume ensemble et tout. Et je trouvais la scène pour le coup complètement détachée du reste et à la fois touchante, mignonne, crédible parce que c'est le genre de conversation que tu pourrais avoir. Enfin, et du coup ça tranche tellement avec tout le reste qui est tellement mais au-delà de tout le. Après, ça vient aussi du décor. C'est un décor que t'as pas vu encore dans la série, qui fait pas du tout crédible. Ça fait vraiment carton-pâte. Elle se sape comme une princesse, clairement. Et t'as un côté, à un moment, t'as un spectacle de danse avec Josh et ses potes, où ils sont sur des tapis volants. Enfin, t'as tout un truc sur la féerie.
C'est un truc Bollywood.
Complètement.
Ça fait très Bollywood, ouais.
Ça fait très Bollywood. Et t'as un truc sur la féerie, mais c'est comme ça que c'est présenté dans le... Enfin, il y a une certaine cohérence narrative là-dessus, parce que on commence avec elle, petite fille, qui veut imposer à un garçon de faire un jeu de princesse et de prince. Elle lui chante une chanson pour illustrer son truc et tout. Donc, t'es clairement dans l'imaginaire de l'enfance telle que on inculque aux femmes quand elles sont petites. Voilà, faut être une princesse. Puis le mariage, ça se passe comme ça, et c'est le truc le plus important du monde pour toi, parce que bon, et mais malgré tout,
mais ça le déconstruit pas vraiment, en fait, c'est ça,
bah, c'est ça le truc.
Mais il y a aussi le fait que la chanteuse, la tante là, ouais, c'est une star philippine de la chanson, et donc il y a tout un
il y a des trucs très drôles avec elle quand même, avec la mère de Josh qui après son introduction, avant qu'elle chante, elle se retourne vers quelqu'un derrière, elle fait mais c'est la pire personne du monde.
Mais et il y a tout un truc, en fait, il y a toute une main tendue à la communauté philippine dans cet épisode, en fait.
D'accord.
Il y a tout un tas de références apparemment qu'on comprend pas trop sur la culture philippine, sur la communauté et tout ça, et du coup ça, c'est vrai que c'est, tu sens qu'ils ont voulu faire cet effort là aussi, parce que c'est un truc qu'ils ont découvert par hasard en commençant à écrire le personnage de Josh.
D'accord.
Et qui s'avérait un truc où il y a eu énormément de retours, parce que ça a été énorme pour toute une communauté philippine de dire oh, on existe, vous parlez vraiment de nous et tout. Et donc, enfin, tu vois, je pense que ça a été aussi cannibalisé l'épisode par ça, et cette volonté de mettre ça. En fait, il y a trop de choses dans ce dernier épisode.
Ouais.
Et puis surtout, elle est quelque part trop à nouveau dans un systématisme. Je veux recréer le conte de fées. Après, j'ai bien aimé le fait qu'à chaque fois qu'elle essaie de chanter sa chanson, personne n'écoute. Elle a jamais chanté en entier. Et Greg est un peu trop négatif de façon systématique.
Oui,
et
puis surtout, enfin, t'as l'impression que c'est déjà un truc qu'il aurait déjà dû évacuer, en fait.
Oui, après, je pense que dans la vraie vie, les gens évacuent pas ce genre de choses aussi facilement. Après, je trouve aussi que c'est aussi un épisode sur des fois tes amis ils t'aident pas.
Oui, non,
parce que son pote, la façon dont il lui parle et dont il parle après à Rebecca, c'est pas très, enfin, ça aide pas le schmilblick, quoi, ça.
Ah non, clairement pas, non. Mais je sais pas, j'avais l'impression que ce souci là était plus ou moins réglé dans l'épisode précédent, avec justement le coup de l'autre date, de l'appel à... Enfin, je pensais qu'on avait évacué ce truc-là, et quelque part il remet ça sur le tapis.
Ouais, c'est un côté redondant.
Alors moi je veux bien qu'il soit dans le sabotage, mais dans ce cas-là, je vais pas écrire leur place, mais je sais pas, il pourrait dire qu'il est contre le mariage ou un truc comme ça, et que ça lui pose vraiment problème, et que ça lui pose beaucoup plus pour reciter Friends, c'est Monica et
Chandler.
Non.
Richard.
Et Richard, quand ils se retrouvent au mariage et que
elle veut
faire un bébé, lui il en veut pas, et il finit par lui dire bah on en fera un si t'y tiens vraiment, et c'est ça qui met fin au couple. Et je trouve que c'est très fin, parce que justement c'est un, bah ouais, on est amoureux, mais en même temps on veut pas du tout la même chose, et ça pourra pas fonctionner. Là je trouve que c'est vraiment artificiel tout ce qui se passe dans cet épisode. C'est vraiment pour arriver à ce que Rebecca couche avec Josh, il faut qu'il se passe ça, il faut qu'il soit désagréable. Puis même quand il montre que ben non, en fait il en a trop fait et que c'était idiot, eh ben on en rajoute une couche. Elle discute avec Josh, et c'est ça qui est le déclencheur du fait qu'il va se murger. Je veux bien, pourquoi pas, mais c'est pas assez en fait.
En fait, ça paraissait artificiel dans cet épisode. Je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que les éléments isolés fonctionnent, enfin, ont du sens, mais là, c'est dans l'exécution en fait de l'épisode que ça marche pas.
Et peut-être après, comme tu le disais, qu'il voulait dire trop de choses dans ce dernier épisode et que ça dilue complètement les enjeux et.
Et par contre, j'ai bien aimé la scène entre Valencia et Josh, le fait que Valencia lui dise putain, mais attends, qu'est-ce que je dois faire d'autre, quoi.
C'est ça.
Il y a un moment, toi aussi, il faut que tu te décides. Et c'est vrai que... Alors, oui. Non, mais le fait que Josh l'utilise... Il y a quelque chose de tragique aussi au fait que Josh l'utilise, Rebecca, ouais, pour s'enfuir de sa relation. Enfin, moi, ma question, c'est dans la saison 2, tu crois que Rebecca, c'est la crazy ex-girlfriend de Greg? Tu vois que le truc se retourne où maintenant elle est la crazy ex-girlfriend de Greg?
Bah, je vois pas comment elle pourrait être la crazy ex-girlfriend de Josh. Parce que à mon avis, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, quoi. Dès la saison 2, Rebecca ne sera pas avec Josh. Ça n'aurait strictement aucun sens. Ou alors si, mais ça se règle en un épisode et il voit que ça fonctionne pas, quoi. Mais, donc oui. Ouais, c'est fort probable, ouais.
Moi, je trouvais ça, à la limite, en tant qu'auteur, moi, si je devais écrire la saison 2, je dirais, en fait, faudrait que Rebecca et Josh essaient d'être ensemble pendant plusieurs épisodes. Que ce serait le seul truc qui serait surprenant.
Pour lui permettre d'évacuer.
Soit on évacue immédiatement, soit on fait vraiment le truc et on voit que ça fonctionne pas.
Ouais.
Et Josh n'a pas la réaction classique de, ah, mais elle est trop tarée pour moi, mais non, finalement, à la fin de l'épisode 1, il revient vers elle et ils essayent d'être ensemble et ça marche pas. Parce qu'à la limite, s'ils vont faire cette histoire à la con, faut qu'ils la fassent jusqu'au bout.
Ouais.
Parce que si pour la faire que pour un épisode, c'est encore pire, en fait. Du coup, c'est tout ça pour ça. Mais bon, mais c'est vrai que moi je regarde deux sitcoms de Freeform, l'ancien ABC Family, le nouveau ABC Family plutôt, que j'aime beaucoup parce que je les trouve extrêmement drôles. C'est Young and Hungry et Baby Daddy, et les deux font le même truc insupportable de séparer systématiquement les couples au bout d'un épisode, voire le même couple. Et là, Léa rigole parce que elle souffre aussi de ça,
de
Baby Daddy, de Young and Hungry. T'as arrêté Baby Daddy?
J'ai arrêté à la fin de la saison 1.
Baby Daddy, c'est vrai? Mais pourtant, j'ai l'impression qu'on en parlait souvent. Parce que moi, Baby Daddy, en fait, ça me fait de plus en plus rire, cette série. Je trouve que les acteurs sont hyper drôles. Mais alors, par contre,
c'est que j'avais l'impression que tous les acteurs dans Baby Daddy étaient des sosies d'acteurs un peu plus connus dans d'autres séries. Donc, c'était juste absolument impossible pour moi.
J'ai le même rapport avec l'acteur qui joue dans Warehouse 13, qui est pour moi une sorte de clone de Joey Tribbiani.
Tous les acteurs qui sont des clones d'autres séries, c'est qui s'étendent sur des séries. Ouais, mais non, en fait.
Quand toutes tes stars portent le nom de presque.
Voilà.
Ou le machin du pauvre.
C'est à peu près ça. Ouais.
Et moi, Baby Daddy, c'est impressionnant à quel point chaque fois que je la vois. Hier, j'ai regardé 5 épisodes, j'avais pas regardé depuis longtemps, et j'ai juste, même alors que il m'énerve à toujours refaire la même dynamique et ils les resépare, ils les remettent ensemble, ils les resépare, ils les mettent ensemble. Ils sont tellement drôles, les comédiens. Ils me font tellement rire toujours dans une ou deux scènes que des fois après tout, tu regardes une comédie, quoi. Mais Young and Hungry, c'est insupportable, quoi. Les gars, ils ont couché ensemble dans le premier épisode.
Et
ils se remettent ensemble, ils se reséparent, ils s'aiment, ils se reséparent, ils se reséparent pour des raisons débiles.
4 épisodes, hein.
Pas mal.
C'est insupportable.
Donc, petit clin d'œil, si elle nous écoute, Julia Lagré, je crois, qui m'avouait pendant une période regarder Baby Daddy, que c'était une des rares séries dont elle regardait les épisodes juste après mise en ligne.
Complètement outée.
Non, mais il y a un nombre de comédiens dedans qui ont un timing comique mais excellent.
C'est avec Melissa John Hart, c'est ça?
Non, c'est Melissa Joy. Mais Melissa Joy, c'est une grande série aussi.
Que Julia Lagré regarde aussi.
Non, mais attends, ça n'existe plus, ça s'est terminé, mais Melissa and Joey, c'est une série. Je te jure.
T'es pas là, tant pis pour toi.
J'ai rigolé devant cette série. Ils étaient bons sur plein de trucs. C'est aussi ce que j'appelle la comédie non insultante. C'est-à-dire que, à la fois, c'est pour un public jeune et un public familial et tout. Et à la fois, il y a sous-jacent des valeurs et une vision du monde qui, moi, me convient très bien, qui est loin d'un côté puritain américain classique, finalement.
Alors, on va se calmer un peu parce qu'il ne me reste que 5 heures d'enregistrement. C'est peut-être un peu juste.
Donc voilà, donc en gros, Crazy Ex-Girlfriend, on attend de voir la suite. Je vais continuer à écouter
oui.
Oh my god, I think I like you. Et toutes les autres chansons de la saison, et en attendant ce que notre amie Rachel. Moi, mon seul souci, c'est que j'ai peur que, comme Rebecca, les auteurs de Crazy Ex-Girlfriend soient trop dans leur tête et dans l'analyse, et du coup, se permettent pas d'aller vers une histoire. d'amour qui peut fonctionner juste parce que faut être un peu cynique et on est là en train de déconstruire les trucs amoureux. Et pour moi, c'est pas incompatible, mais s'ils interdisent, moi j'ai toujours du problème avec les séries qui interdisent à leurs personnages d'être heureux, quoi. Donc j'aimerais bien qu'on voit qu'ils tendent vers un bonheur ou une stabilité qui ne sera jamais complètement stable et qui ne sera jamais complètement
à la fois tendre vers ça et en même temps je pense que la première saison parlait très bien de la dépression par moment. Je pense qu'ils peuvent continuer à bien parler de la dépression, même si elle est en couple avec Greg, même si elle est heureuse avec Greg, ça n'empêche pas.
Ouais, c'est
donc
clair.
Je pense qu'ils peuvent continuer de parler de ces choses-là.
Parce que You're the Worst a fait en
seconde. C'est ça.
Tellement bien.
C'est déjà prouvé que c'est pas la solution. De toute façon, c'est pas la solution à tous les problèmes d'être bien en couple. Mais c'est aussi parce que ça permet justement de parler de ces choses-là, quoi, de parler du fait que c'est pas antinomique, quoi. C'est pas parce que t'es heureux en couple que t'es pas déprimé, quoi.
Ouais. Donc, Crazy Ex-Girlfriend, voilà, nous en. Alors, du coup, je ne sais pas si l'année prochaine on va suivre de la même façon. On en reparlera de temps en temps.
Il y en a une qui va suivre.
Mais je veux dire par rapport à ma tâche de série, quoi.
Ouais.
Alors, de toute façon, on verra à quoi ressemblera le planning des podcasts à la saison prochaine. Mais donc, maintenant, on va parler de Superstore. Donc, il nous restait, on avait fini sur Color Wars, on avait un peu triché, on avait parlé de Wedding Day Sale, qui était l'épisode avec, notamment, on avait parlé notamment du patron qui essayait de montrer qu'il pouvait être ouvert d'esprit pour les homos avec ma phrase préférée qui fait « Ah, c'est comme ton père il y a 2 ans !» pour expliquer sa maladresse. Et donc, en fait, le dernier, on va aller jusqu'à la fin de l'épisode, qui s'appelle Labor. Alors, un des trucs les plus marquants de ces derniers épisodes, je trouve qu'il y a plusieurs retournements. Il y a le retournement de... j'ai oublié son nom, comme d'habitude. Dina.
Ouais, Dina.
Chef de la sécurité qui veut se taper Jonah.
Et Jonah sort un prétexte à la con pour pas sortir avec elle, plutôt que de lui dire qu'elle ne lui plaît pas et que comme ça il serait passé à autre chose. Il lui dit qu'il n'a pas envie de sortir avec quelqu'un qui est son supérieur hiérarchique. Et donc, elle demande à être rétrogradée.
Ouais. Sur le coup, j'ai eu très très peur.
Ouais.
En fait, je trouve que c'est très très bien géré sur la suite, parce qu'en fait, ça va quelque part, quoi.
Ouais, ça va quelque part en même temps. Oui. Oui, le premier truc qui est rassurant, c'est qu'au moment où Josh est mis face à ses responsabilités...
Jonah, tu l'appelles Josh.
Non mais j'appelle tout le monde Josh, cherchez pas. Tous les protagonistes masculins de toutes les séries, je vais les appeler Josh.
Et puis les femmes, c'est Rachel.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est...
Et puis dans Agent Carter, Thompson, je vais l'appeler Josh. Voilà. Que les choses soient claires.
Oui, c'est ça.
Je préviens. Donc Jonah est mis face à comment dire...
Au pied du mur par rapport à...
Au pied du mur. Il lui dit enfin que ça marchera pas, quoi, ça le fera pas. Je trouve qu'elle a une réaction qui paraît très étonnante et saine, c'est que je vais trouver quelqu'un d'autre avec qui sortir, il y a pas de souci.
Ça c'était super cool, ça c'était vachement.
Ça c'était vraiment bien, quoi.
Et tu sens, et pour le coup moi je pense que le demotion ils l'ont fait parce qu'ils amenaient ça.
Ouais.
Et que c'était une façon dans les deux cas de nous surprendre.
Ouais. Et une façon aussi de, ça fera plaisir à notre ami Maxime, de montrer que si Jonah avait été un petit peu adulte dans sa tête, il aurait peut-être empêché qu'une personne plutôt pas désagréable accepte une
de changer de poste,
de changer de poste et de provoquer ce que ça provoque derrière. Il y a une lecture de l'épisode final que j'avais vu qui prétendait que à la fin, la raison pour laquelle elle est complètement déprimée, Dina, justement, c'est parce que elle a pas pu avoir Jonah. Or, à mon sens, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'elle a plus de pouvoir et que ça lui manque.
Et c'est comme ça que l'épisode commence. Et elle dit, elle commence par dire, maintenant j'ai l'impression de plus avoir de raison d'être et de raison de vivre. Ce que j'adore, c'est que parlons de ce donc il y a ça, c'est intéressant. Il y a le truc du wedding day sale, il y a plein de moments qui sont intéressants sur le fait aussi, mais pour le coup c'est pas lié à Jonah spécifiquement, mais le fait qu'elle veut pas passer la journée. Dina cherche une raison de fuir, les voleurs de caddie.
Ouais.
Cherche une raison de fuir parce qu'elle aime pas le wedding day sale, parce que ça la déprime, les gens qui veulent se marier, machin et tout. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait un truc un peu surprenant aussi dans sa façon d'en parler. Enfin bon, ça, je trouvais ça intéressant. Mais surtout, le dernier épisode, voilà, c'est le fait de que le dernier épisode parle des droits des travailleurs.
Ouais.
Et de la façon dont ils sont exploités, dont ils sont traités, le système corporate, comment ça fonctionne, comment ils réagissent à l'utilisation du mot syndicat.
Ouais. Qui donne lieu à une des scènes les plus drôles de la série, je pense. Quand donc Jonah et
Amy
sont dans le bureau et se disent, tiens, quand même, on va leur demander s'il n'y a pas possibilité qu'il y ait quelque chose pour les femmes qui partent enfin qui accouchent et qu'elles aient le droit quand même à un maternity leave, donc
un congé maternité.
Et ils commencent à discuter au téléphone et juste Jonah qui doit dire à un moment, non mais je vous parle pas de monter un syndicat, mais ah pardon, vous avez dit syndicat, attendez deux petites secondes. Et là d'un seul
vous
coup
êtes maintenant avec le patron,
vous êtes avec alors vous êtes avec je vais encore l'appeler Josh, vous êtes avec Josh donc du département légal, donc bonjour, oui, alors attendez, j'ai aussi Marie de et tu vois Amy et Jonah qui se regardent, putain mais qu'est-ce qu'on a fait quoi.
Et
t'as une escalation là-dedans où tu t'entends de plus en plus de monde au téléphone et ça se termine par ce truc, si vous avez bossé en entreprise, si vous bossez toujours en entreprise, que vous connaissez, c'est comment dire, une sorte de réunion motivatrice de quelqu'un qui vient du siège et qui vient vous expliquer que c'est vachement bien ce qu'on fait parce que quand même on est une bonne boîte et qu'on n'a pas vraiment de questions à se poser parce qu'on est vraiment une bonne boîte.
Et que le syndicat, c'est mauvais pour tout le monde.
Et que le syndicat, c'est mauvais pour tout le monde. Et que vous pouvez poser des questions si vous voulez, hein, mais globalement, je vous répondrai par une question. Et c'est vraiment... Bon, évidemment, c'est exagéré dans pas mal de situations...
Ouais,
peuvent s'avérer drôles quand
c'est pas si exagéré que ça.
Leur chef, bon, c'est un peu comme moi avec Josh. Leur chef à un moment doit faire un petit exercice de mise en situation où il doit prendre il doit s'appeler différemment pour.
J'avais oublié ce truc-là.
Où il dit nous sommes collègues, vous êtes un.
Employé,
et puis moi je veux essayer de vous convaincre de rentrer dans un syndicat. Donc je m'appelle Steve, et comment vous appelez-vous? Steve. Et à chaque fois qu'il lui demande un prénom, il lui dit Steve. Il dit oui, non mais je connais d'autres prénoms, allez-y, moi. Steve. Et non, c'est vraiment c'est vraiment drôle, c'est issu de quelque chose de réel pour le coup, c'est des comportements qu'on voit en entreprise et ça parle d'un vrai problème en fait. Donc comme tout le reste de la série, ça le traite sous l'angle humoristique, un petit peu exagéré, un petit peu, mais sont des problèmes réels.
Oui, c'est une vraie série activiste en fait, sociale.
Tout à fait, ouais, l'air de rien. Et l'air de pas y toucher.
Et d'ailleurs, ouais. Ça va super long parce que ça se termine par cette espèce de grève générale et finalement à la fin, on se dit ils vont gagner et non, Dina décide de prendre l'occasion pour prendre la direction du truc et vire tout le monde.
C'est ça.
Et là, je me suis dit chic, il y a une saison 2 parce que là ça donne vraiment envie d'avoir une saison 2.
Complètement, ouais. Et tu sens l'école The Office sur pas mal de trucs, c'est moins sarcastique que The Office pouvait l'être, en tout cas dans ses premières saisons. C'est plus doux.
C'est moins cynique.
C'est moins cynique, voilà. J'irai clairement sur la saison 2. Ça peut être beaucoup moins bon, peu importe. J'aime bien les personnages, j'aime bien les interactions, j'adore Gareth. Gareth me fait mourir de rire.
D'ailleurs, je regardais le début de, pour le remettre en tête, le début du dernier épisode, donc qui commence par Dina qui dit, qui se regarde dans une caméra et qui dit, tu trouves que j'ai l'air faible? Et Gareth fait, good morning! C'est comme ça que les gens normaux commencent une conversation. L'espèce de sachant que moi c'est bizarre, mais une des images qui m'a dit, ah oui, on a oublié l'épisode que j'ai adoré, parce que c'est un épisode, un bottle, enfin ouais, un peu un bottle épisode qui fonctionne super bien, l'épisode de la slumber party, quoi, quand ils se retrouvent à passer la nuit dans le magasin avec, et moi c'est bizarre, mais je l'image de Gareth qui met la musique, qui met comment s'appelle, GDFR, c'est le nom de la chanson, mais c'est enfin en gros une des premières chansons qui fait c'est un truc de l'été de l'année dernière qui passe partout machin go down for this ou un truc comme ça c'est GDFT et la façon dont il fait genre qu'il danse en écoutant quand la chanson commence avec Amy où ils sont là où ils commencent à faire genre ouais il y a quelque chose de tellement naturel et de et tu sens aussi le côté amical entre eux ça j'adore le moment où t'as la fille enceinte qui fait son numéro de danse
oui.
Et qui commence par faire un truc sur True Colors de Cyndi Lauper et c'est super beau et ça s'est fait un truc sur Anaconda de Nicki Minaj ultra sexe ultra gênant et ils se regardent ils disent j'aurais dû me douter Gareth je crois que c'est Gareth il dit j'aurais dû me douter que ça allait vers ça j'aurais dû me douter que ça allait terminer comme ça mais
avec la side story de l'épisode où tu vois la collègue qui est toujours envoyée bouler quand elle exprime ses problèmes qui est coincée en haut d'une en haut d'une étagère et tout le monde lui passe devant et personne ne vient l'aider
et Amy qui se bourre la gueule et qui j'adore Amy qui s'amuse à marcher sur le tapis roulant de la caisse et surtout ce truc aussi où à la fin elle dit à Jonah elle essaie de parler de son plus grand regret mais d'ailleurs elle le dit jamais et elle lui dit je sais que tu penses que ça va être de me marier mais c'est pas ça genre c'est une autre façon supplémentaire de dire je ne suis pas le cliché que tu penses que je suis c'est plus compliqué que ça c'est pas aussi simple que ça et non il y a plein de trucs hyper touchants dans cet épisode.
Ouais, c'est vrai que c'est un. Bah, comme assez souvent les bottle épisodes, ça stimule un peu la créativité. Puis ça force les personnages à se parler, donc forcément ça donne de bonnes scènes. Il n'y a pas tout le décor autour, donc on ne peut plus s'appuyer sur ces trucs-là, donc on est obligé de les faire se parler les uns avec les autres. Soit pour se dire des mensonges, soit pour se dire des vérités. Mais non, c'est un épisode qui est très réussi, mais bizarrement, le final est. Plutôt réussi en fait.
Pourquoi tu dis bizarrement ?
Non, parce qu'on vient de parler d'une série qui a été bonne dans sa globalité, dont le final est raté, donc c'est difficile de réussir un final. Et sur une comédie encore plus, parce que justement il y a la tentation de faire un petit peu n'importe quoi, et je sais pas, ils auraient pu faire que Jonah et Amy s'embrassent ou une connerie dans ce genre-là.
Et en fait,
au contraire, et ils l'ont pas fait, et ils ont
raison parce que ce serait pas.
C'est une workplace comédie, donc on reste dans le boulot.
Et puis surtout ça, enfin je veux dire, clairement il y a un truc entre eux.
Bien sûr. Évidemment.
Depuis le départ, mais c'est pas earned.
Non.
C'est-à-dire que là, si ça s'était fait là, ou alors ça aurait pu se faire, mais ça aurait pas été à propos d'eux, ça aurait été à propos d'autres trucs.
Bien sûr.
Voilà. Mais
ils en sont pas là.
Et en plus, moi, pour avoir regardé une grande partie des épisodes de Dawson's Creek ces derniers temps, parce que j'ai écrit un article. Attention. Instant auto-promo. Dans le dernier clap, où il y a un dossier sur Dawson, j'ai écrit un article sur le sexe dans Dawson, ce qui était un truc assez incroyable, parce que au début, j'allais dire, malgré ce qu'on pense, il y a quand même... Et en fait, je fais, oh mon Dieu, en fait, c'est le sujet central de toute la série, à un point que je n'avais pas imaginé. Alors, pas spécialement le sexe dans sa version la plus chaude, plus dans la version comment on psychote autour de la question de la sexualité, surtout quand on est ado. Surtout à l'époque où on n'a pas Internet, parce que c'est là que ça se passait. Et il y a un épisode absolument génial qui s'appelle The Outcasts, The Castaways, qui est un bottle épisode entièrement dans la dernière saison, sur Pacey et Joey qui se retrouvent coincés dans un supermarché, pareil, avant la fermeture, et ils passent la nuit dans le supermarché tous les deux, et en fait c'est le moment où ils doivent tout d'un coup, toutes leurs problématiques dont ils ne parlent pas, qu'ils n'abordent pas depuis des années, en faisant genre on est amis et non on n'a pas été fou amoureux avant, tout ressort, et ça, en fait c'est génial parce que ça justifie le fait de pas en avoir parlé pendant 2 ans, on comprend pourquoi ils en parlaient pas en fait, pour les deux, pour des raisons différentes, mais pourquoi, et puis ça remet le truc là, et ça montre le chemin parcouru, et en même temps c'est un épisode fun, et en même temps pour une série d'ensemble, tout d'un coup de se concentrer que sur deux personnages, c'est un pari, mais bon bien sûr c'est les deux personnages les plus intéressants, donc ça aide beaucoup, j'aime beaucoup la tête de Léa.
J'avais fait ici dedans, vous pouvez faire un épisode uniquement sur lui, ça faisait...
D'ailleurs, c'est rigolo parce que récemment je parlais de ça et en grande non sentimentale, je peux m'attendre à ce que Léa ne s'intéresse absolument pas à Dawson's Creek. Et à un moment,
je ne m'intéressais absolument pas jusqu'à ce que je réalise que Pacey était parfait. Et donc là, j'étais bien tentée de regarder.
Et je parlais du fait que Pacey, est juste. Non, mais je disais, mais je reviens de Sun et ce mec, c'est incroyable. En fait, je pense qu'il a traumatisé toute une génération de nanas parce que c'est le mec parfait. C'est le mec de nos, de, en fait, le mec idéal, pas dans le côté prince charmant, mais le vrai mec avec qui on voudrait être dans la vie. Et j'en parle, elle me dit. Et moi, je me disais, elle va me dire, oh, Dawson. Et elle m'a dit, mais bien sûr, même pour moi, il est parfait. Et là, j'ai fait, si même Léa est convaincue, mais c'est fini.
Mais tu sais que moi, en plus, j'avais regardé Dawson très tardivement parce que c'était pour mon mémoire que j'avais regardé.
Ah oui!
Donc c'était vraiment.
Donc tu n'avais pas 15 ans.
Donc je n'avais pas 15 ans. Et malgré tout, tu, bah forcément, quand tu regardes ça, tu te remets dans la peau de la gamine de 15 ans que tu as pu être et tu te dis, ouais, mais il est parfait. Mais même encore maintenant,
il est
encore parfait.
Bon, et je me demande si avec Carole et d'autres gens qui ont bossé sur Clap, on va pas faire un petit vintage Dawson un jour parce que ça vaut le coup. Tout ça pour dire que, du coup, un bottle épisode dans un supermarché, ça m'a fait trop plaisir parce que ça m'a fait penser à Dawson. Et surtout à Pacey, soyons clairs. Joshua Jackson forever. Toi, Pacey, t'étais amoureux? Non, pas du tout.
Dois-je répondre à cette question?
Non, mais je sais pas, t'aurais pu aussi. Non, mais alors, je te dis juste, pour je dis à tous les hommes sur cette terre, revoyez Dawson's Creek, regardez comment il est, Pacey, c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Voilà, c'est tout.
D'accord.
Anyway, quoi d'autre sur Superstore ou on passe direct à.
Bon, on va passer à Jean Carter.
À l'enterrement de. À la veillée funèbre de Agent Carter.
Non, c'est pas ça.
Si, si, c'est le. Mais je crois que c'est la marche funèbre de Chopin. Hein.
Ah ouais?
Il me semble que c'est. J'irai la chercher. Si je l'ai trouvée, je mettrai un petit bout libre de droit à son endroit du podcast pour qu'on l'entende. Petite note de post-production, j'ai bien trouvé la musique, c'est pas du tout Chopin, ça s'appelle Taps et c'est vraiment un truc de l'armée américaine utilisé dans les enterrements, ça date en fait de la guerre civile. Du coup, je vous ai mis Chopin à la fin pour que vous voyez la différence. Donc oui, Marvel's Agent Carter, où tu disais la dernière dans le dernier podcast, ouais, il y a peut-être des chances que ce soit renouvelé, on verra et tout. Donc voilà.
J'aurais mieux fait de me taire.
You jinxed it. Bon, bah,
sûrement.
Comment ça paraît?
C'est de ma faute.
Pendant que je m'allume une cigarette. Et oui, je sais, je fume. Et arrêtez de me dire que c'est pas bien.
Je m'adresse c'est vrai, vous là, hein?
Je m'adresse aux gens
on vous a entendu
qui ont commenté sur ma dernière photo où j'ai une clope à la main sur Facebook.
D'accord. Elle va me manquer à Jean Carter. Elle va me manquer. C'est commencé à devenir pas mal à Jean Carter. C'est les doutes que j'avais en saison 1, le fait que je trouvais ça sympa, mais sans plus. Le problème, c'est qu'en saison 2, c'était plutôt mieux. C'était, tout n'était pas parfait. Je trouve que ce qu'ils font avec le personnage de Whitney Frost sur la fin est un peu caricatural. Ça devient vraiment un méchant, quoi. Et alors qu'elle avait un petit peu plus de profondeur en première moitié de saison, on va dire. Et il y a un truc, c'est que là, on atteint un point dans cette série-là, à mon sens, où les personnages ont clairement pris le pas sur la narration. Et moi, personnellement, j'avais une vraie empathie pour eux,
ouais.
Grandissante et surtout magnifiée par leurs échanges, voir évidemment, bon, l'évidence, Peggy Carter et
Jarvis.
Et Jarvis. On reviendra peut-être dessus dans la conversation, mais c'est tellement évident que c'est pas une surprise non plus, mais même avec les autres, en fait. Avec Anna et Jarvis, avec Anna et Peggy Carter, avec le personnage d'Anver Gokaj, avec
Susan,
mais même Thompson à la fin.
Oui, Thompson qui a plein de moments super dans les derniers épisodes.
Et même l'antagoniste de fin de première saison qui est venu faire une...
Dottie. Non, c'est Dottie qu'elle s'appelle.
Ouais. Ouais, ouais, Dottie, je sais plus son nom de famille. En fait, la série atteignait le point où t'étais content de passer du temps avec eux.
Ouais.
Et peu importe si c'était un peu crétin, même sur la fin, j'ai vu tous les épisodes, mais en relisant les résumés des épisodes avant d'enregistrer, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment vu le dernier? Tellement, en fait, tout ce qui était plot point m'était un petit peu passé au-dessus. Mais ce qui me fait me souvenir, ce qui me fait me rappeler que j'ai bien vu cet épisode-là, c'est les interactions entre les personnages et le fait que je me souviens de Stark et de Manfredi qui se retrouvent et qui parlent du qui parlent d'un pseudo bon vieux temps ou qui enfin c'est ces moments-là qui reviennent, c'est pas les idioties avec c'est mignon hein, mais c'est des idioties quand même avec le Zero Matter enfin t'as tellement de trucs crétins et en même temps ça fait partie de l'univers que ça dépeint, c'est voilà, c'est typiquement ça sent c'est une histoire que t'aurais pu avoir dans un comic book de cette époque-là, en fait. Mm-hmm. Complètement surréaliste, complètement, mm-hmm. qui tient pas du tout la route, qui est pas ancré, mais les personnages, eux, ça y est, ils le sont vraiment. Et c'est vraiment triste, quand ça arrive à ce point-là et qu'on te l'enlève. C'est que...
Du coup, ça te fait vraiment chier, c'est pas tant que tu voulais la fin de l'histoire, c'est que tu voudrais passer plus de temps avec.
Exactement. J'avais envie que ça revienne pour une troisième saison avec d'autres élucubrations complètement débiles, mais pour les revoir de nouveau interagir ensemble. Là, tu te dis, ben non, ils réinteragiront plus jamais ensemble parce que c'est une série qui a pas drainé assez de public. L'agent Carter, c'est pas non plus, comment dire, un étendard de Marvel. Donc ils ont pas de justification à reprendre le flambeau, si ce n'est que elle est géniale et que le personnage crevait l'écran dans Captain America, c'est cool, mais s'appuyer dessus pour relancer une série, je vois pas vraiment comment ça peut fonctionner. Je pense qu'on continuera à revoir l'agent Carter dans plusieurs productions Marvel.
Elle était dans Ant-Man,
elle est dans les Captain America.
Dans Civil War, elle est, il y a son enterrement.
On en parle.
Il y a son enterrement, mais.
Non, on ne la voit pas, on voit une photo.
Et en plus, c'est ça, c'est doucement ironique. Oui, on sait qu'on vous l'avait enterré, on est au courant, merci.
J'en discutais avec quelqu'un, il disait, on ne saura pas comment ça se termine. Si, on sait, il meurt. Tous. Le papa de Tony Stark, il est mort. Jarvis, il est mort. Même virtuellement, il est mort. Et Agent Carter, elle est morte. Doucement. Laissez-moi pleurer maintenant. Quelle horreur.
Moi, je me rappelle d'un truc à un moment dans le désert où je crois qu'elle est enfermée dans le camion et tout d'un coup, ça fait un boum. Ils se disent, bah, juste, qu'est-ce qui se passe? Et elle les détraque tous. C'était très drôle. Et non, et je trouvais ça génial le fait qu'elle en veuille à Sousa de l'avoir sauvée, d'avoir fait quelque chose pour la sauver.
Ouais.
Au détriment de la mission. Et que du coup, le truc final entre eux, ce soit lui qui souligne. Oui, enfin, quand même, vous avez fait quelque chose au détriment de la mission pour me sauver. Et clairement, elle l'a pris comme, avec susceptibilité, ouais. Comme, c'est bon, c'est pas parce que je suis une femme, machin. Et qu'en fait, ben, non, c'était autre chose vu qu'elle a fait pareil pour lui.
Ouais.
Et le fait que ce soit dans ce sens-là, c'est, et que ce soit problématisé. Enfin, tu vois, que ce soit souligné. Et puis bon, à la fin, ils s'embrassent. J'étais trop contente.
Bien
que, clairement, soi-disant, c'est pas lui qu'elle épouse, parce que dans Captain America, dans le deuxième, tu comprends qu'elle a épousé, ou dans le premier, enfin, tu sais qu'elle a épousé un des mecs de la troupe de militaires, alors je sais pas trop lequel, mais,
The Howling Commandos?
Ouais.
D'accord.
C'est ce qu'ils disent dans un des films. Moi, j'étais là. Mais c'était avant qu'il y ait...
C'est un univers de comic book. On a réécrit le passé. Tu vas voir que
dans trois épisodes, ils vont te faire un reboot qui, de toute façon, fera que
non,
ce qu'on a vu n'avait aucun sens.
De toute façon, il y a une théorie grandissante dans l'univers Marvel, comme quoi, étant donné que ça arrive dans un truc très cosmique, il va y avoir un moment dans le Marvel Cinematic Universe où il va y avoir une réécriture des choses qui va permettre de recruter des comédiens plus jeunes et moins chers.
Ah, tu veux dire comme X-Men Apocalypse? Tu l'as vu, toi?
Ah oui.
C'est le film qui signe son propre arrêt de mort en expliquant, de toute façon, les troisièmes, ils sont toujours nuls. Bah ouais, et vous n'avez pas manqué à la règle.
C'est ça. Et en essayant d'être malin, hein, Bryan Singer qui dit, hey, je parle X-Men 3 et je me rends pas compte que je parle du film que je réalise aussi. Oui, X-Men Apocalypse, si vous ne l'avez pas vu, bah, ne le voyez pas. Par contre, je vous conseille la série d'animation X-Men Evolution, qui traite d'Apocalypse dans sa dernière saison. Bah, c'est vachement mieux. C'est vraiment vachement mieux. Et Apocalypse fait vraiment... on comprend pourquoi il fait peur dans X-Men Evolution, que c'est juste un gars qui parle dans X-Men Apocalypse.
Mais de toute façon, tout le monde, personne ne bouge.
Ah non.
Les gens sont immobiles.
C'est ça.
Oui, des fois, ils crient.
Pourquoi ? Il y a Michael Fassbender. C'est à peu près le...
Après, une des scènes émotionnellement les plus fortes du film, à mon sens, parce que ce qui lui arrive, c'est absolument dramatique, et ça, par le jeu de Fassbender, t'es complètement touché, et puis t'as la dernière scène où tu dis, oh, putain, mais en fait, je suis dans un Z à Z. C'est une parodie. X-Men Apocalypse. J'ai énormément de choses à dire sur X-Men Apocalypse. Sachant quand même que une des actions de l'antagoniste, c'est de faire exploser en l'air toutes les bombes atomiques du monde. Et à ce moment-là, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, ouais, mais c'est un peu cool quand même. Il n'y a plus de bombes atomiques. Merci Apocalypse. Alors que tout le monde est là, non, non, quelle horreur. Non mais, ah, en fait, il a explosé le seul moyen qu'on avait de s'anéantir tous. C'est pas comme bon, c'est pas si pire au final.
Oui, sachant que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il explose dans le cosmos. Hein.
Ouais, c'est ça.
Il envoie les roquettes dans l'espace.
C'est une façon de se protéger lui-même et de. Mais... tu te dis.
C'est débile.
Ouais, mais c'est pas si pire.
Revenons. Donc, à côté de ça, John Tegrator a beaucoup plus de sens. Mais non, j'ai bien aimé Thompson qui changeait de bord et qui était un type bien au final, quand même.
Ouais. Ambitieux, arriviste, mais avec un bon fond.
Voilà. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la gestion de Souza et de.
Même la gestion du scientifique qui est rapporté dans l'histoire à la fin et qui dit ouais, vous faites chier, vous intéressez qu'aux gens de terrain.
Ah oui, c'est ça. Oui. Ah oui, ce personnage génial du laborantin là qui tout d'un coup est dans l'action et il est trop excité d'être là en disant non mais c'est grave, mais quand même c'est super cool parce que moi je fais partie de l'équipe.
Et là t'as un peu un côté, en fait il y a un truc qui se crée de personnages un peu misfits, un peu à la marge.
Et d'un coup, c'est
saison,
team, quoi.
C'est ça. Et tu te dis, en saison 3, au lieu d'être le show Ashton Carter, ça peut clairement être un ensemble show sur des gens un petit peu laissés de côté, ou mal
The
considérés.
Wire, quoi.
Et en aussi fun. mal considéré, que ça soit Ellen Carter parce que c'est une femme à cette époque-là, ou l'agent Thompson parce que on a placarder des attentes sur ce mec-là et qu'il s'est senti obligé de les remplir, mais que finalement il a pas envie, ou Souza parce qu'il a un handicap, ou le scientifique, ou Jarvis parce que de l'extérieur c'est le butler de Tony Stark et qu'il est censé être moins flamboyant alors qu'il est une flamboyance
incroyable. Et la secrétaire de Souza.
Et tu te dis.
D'accord, c'est le laborantin qui est amoureux de la secrétaire de Souza, faut qu'elle manipule.
C'est ça, oui.
C'est absolument génial la façon dont c'est pas du tout, et Jane Carter qui est spécifiquement la femme fatale là, c'est plus
non et autant la saison 1 faisait un petit peu elle contre tous avec un peu Souza, la saison 2 il y a quelque chose qui se construit et qui aurait pu donner en saison 3 quelque chose de vraiment bien. Alors désolé pour ceux qui aiment Jane Carter qui ont un petit peu l'impression que j'ai chauffé un couteau à blanc et je le remets dans la plaie. Mais non, honnêtement, c'est il y a une sensation de gâchis. Il y avait une sensation de gâchis artistique au début, et là il y a une sensation de gâchis parce que ça y est, on y arrivait en fait. On arrivait à ce que c'était censé être, et ça y allait naturellement. Fallait laisser faire. Mais bon, Marvel a été pressé de. Mais au niveau des résultats, ça se comprend. Il n'y a pas non plus. C'est pas comme si la série avait vraiment fonctionné, faisait énormément de buzz ou quoi. Enfin, il y a pas d'injustice. Ça fait juste chier.
C'est ça. Donc voilà, alors je le fais pas assez souvent, je le redis, racontez-nous ce que vous avez pensé de ces fins de saison, dites-nous si vous êtes d'accord, pas d'accord, que ce soit sur Twitter, sur I cannot sit still avec un seul L parce que l'autre était déjà pris, nos Twitter perso, sur le site, vous nous envoyez des mails comme vous l'avez entendu avec Maxime, on lit vos mails. Parfois même à l'antenne. Je dois dire à l'antenne comme si on était sur un vrai truc. On s'arrête là pour aujourd'hui. Mais puisqu'on vous a fait attendre et attendre et attendre et attendre pour ce post-mortem, on a une deuxième partie pour vous que vous pourrez découvrir la semaine prochaine. Un petit tour de table qu'on avait enregistré juste après sur où on en était des autres séries de la saison passée. Vous verrez, on était déjà surtout en retard. Ah, nous n'avions pas idée des proportions que ce retard prendrait. D'ailleurs, j'espère que vous nous pardonnerez l'anachronisme absolu de cet épisode et du prochain. J'ai hésité à vous les livrer, mais en les réécoutant, j'ai trouvé que Dom disait bien trop de choses intéressantes et que Léa me faisait trop rire pour vous en priver. En tout cas, merci de votre patience et de votre compréhension. Un jour peut-être je vous raconterai mon été et vous verrez que c'était bien à l'insu de mon plein gré. En attendant, je vous dis à très vite, pour de vrai cette fois-ci, et bonne série d'ici là. Bon, je sais ça va être dur avec les pilotes, mais il faut bien y passer. Hein. Ah, et j'oubliais, Chopin bien sûr.
Cet épisode parle beaucoup des réactions hormonales qu'on a après le sexe, et je pense que autant les nanas elles ont ce truc de bonding, autant les mecs, quelle que soit la situation et le contexte, il y a le côté haha, I got her, et t'es là why, try a UTI. Transfer of bacteria. Don't ruin this for me.